Nous allons continuer dans nos mots qui dérangent. Et comme je vous disais, donc avant l'interruption, le troisième mot qui nous gratouille aussi souvent, c'est le mot ascèse. Alors l'ascèse a souvent été présentée de façon négative, un peu comme une mortification physique. Il fallait brider le corps. Et parfois, c'était même de façon extrême, avec des recours à des accessoires, pourrait-on dire, de torture, tels que le port du cilice, ou bien les chaînes, ou des flagellations. Et il suffit pour ça de souvenir, par exemple, des mortifications qui étaient décrites dans le Da Vinci Code, ou bien dans le Nom de la Rose, où on voyait vraiment des moines qui, physiquement, en voulait à leur intégrité physique, je vais dire, ou toucher à leur intégrité physique. Alors parfois aussi, c'était présenté comme des jeûnes sévères, ou des avalanches de prières à réciter sans relâche, des nuits de prières interminables. Dans nos têtes, d'ailleurs, l'ascèse a souvent une connotation doloriste, une connotation volontariste, austère. Il y a une idée de privation, une idée de contrainte, de frustration, d'effort héroïque, de volonté, de complaisance dans la souffrance. Ça doit se faire dans la douleur, pour abattre l'ennemi qui est le corps, d'où vient tout le mal. Et c'est un peu ça qui fait que c'est difficile à entendre. C'était la vision, en effet, la vision stoïcienne des philosophes grecs. Maîtriser ses instincts et ses pensées, pour arriver à l'apathéa, l'absence de passion, et ainsi libérer l'esprit qui, lui, était bon, était présenté comme étant bon. L'ascèse, disait Kant, qui était donc un philosophe considéré du XVIIe siècle, c'est en sorte une manière de vivre de tous les hommes dans le but d'atteindre le bonheur suprême. Bouddha aussi avait des pratiques ascétiques, des pratiques corporelles ascétiques, pour arriver justement au nirvana, l'état sans passion. Les moines du désert aussi étaient des champions de l'ascèse corporelle, pour arriver à se détacher des passions et des pensées qui les assaillaient. Et les pères de l'Église ont souvent décrit le corps, justement, comme le grand responsable de nos pensées mauvaises. Et c'était lui qu'il fallait maîtriser, car c'est lui qui était la source de tous nos malheurs. Force est de constater que tout cela est pour nous chrétiens un peu questionnant. Si c'est ça l'ascèse, primer le corps, alors on peut se poser la question, mais pourquoi l'incarnation du Christ? Pourquoi Dieu a-t-il décidé de venir dans un corps humain? Cette chose qui est présentée comme si vile et si grossière. Quand Dieu a créé l'homme, pourtant, il a dit que cela, c'est l'homme complet, dans son corps, ses pensées et son esprit, était bon. Ainsi, l'ascèse chrétienne, en opposition à l'ascèse inspirée de Socrate et de Platon, ne repose pas sur la base d'un monde physique qui serait mauvais, d'une matière mauvaise, d'un corps mauvais, mais au contraire sur la base que tout ce qui est créé est excellent en sa nature. Mais ce qui est excellent en sa nature peut être perverti et abîmé par l'homme s'il n'en prend pas garde. L'ascèse, dans la perspective chrétienne, ne peut se comprendre que parce que fondamentalement, vous allez dire que je me répète, mais la création est inachevée, qu'elle est toujours en cours. Et que l'homme, est appelé à coopérer librement avec l'aide de Dieu à parfaire cette création. Et c'est vrai que malheureusement, la cesse a parfois été présentée dans une perspective de punition, une perspective de pénitence, alors que c'est tout le contraire. La cesse chrétienne orthodoxe ne veut pas diminuer l'homme, ni le frustrer, ni le mutiler, ni le déshumaniser, mais au contraire, l'achever, continuer à le façonner, à faire de lui ce qu'il est appelé à devenir, un Dieu semblable à Dieu, c'est-à-dire un être d'amour absolu. La cesse est finalement une condition ontologique du développement de l'homme. Alors c'est vrai que lorsque nous regardons dans les dictionnaires, nous trouvons des définitions qui tournent autour d'une idée d'effort et de perfection. Un effort visant la perfection spirituelle par une discipline constante de vie. Une manière de vivre de quelqu'un qui s'impose certaines privations. Une discipline que la volonté s'impose afin de tendre vers un idéal, soit de perfection morale, soit de création artistique ou intellectuelle. Une discipline volontaire du corps et de l'esprit cherchant à tendre vers une perfection. Étymologiquement, le mot ascèse vient du grec askésis, qui signifie exercice, ou aussi pratique, ou aussi combat, ou encore, et pour les Grecs c'était important, le genre de vie des athlètes. Dit-on pas d'ailleurs qu'un athlète de haut niveau a une vie ascétique? Il s'exerce de nombreuses heures à la pratique de son sport et il soigne aussi son alimentation, son mode de vie. La cesse est donc une pratique, un entraînement, un exercice, un art de vivre qui vise à atteindre une certaine perfection. Alors cette perfection peut prendre différentes formes, comme la santé, la beauté, le salut, le bonheur, le nirvana. Ainsi, si le but est une santé parfaite, eh bien, nous allons être amenés à faire attention à notre alimentation, à notre mode de vie, à notre environnement. Si le but est le bonheur sur Terre, eh bien, nous ferons attention à nos relations avec les autres, à notre mode de vie, à notre façon de travailler, et donc nous allons pratiquer les choses, s'exercer pour atteindre ce but. Mais pour comprendre la cesse pour un chrétien, nous allons donc devoir, 1, définir le but, le pourquoi nous faisons ça, et deuxièmement, la pratique, le comment de l'exercice. Alors je voudrais faire deux remarques d'abord. La première remarque, c'est que la cesse chrétienne, elle dure aussi toute sa vie. Elle ne s'arrête jamais. Finalement, la cesse est un exercice qui nous est proposé à tout moment. Chaque instant est une occasion de travailler. Chaque instant peut être une expérience, un apprentissage pour atteindre le but. Et la deuxième remarque, ça faut faire attention aussi, c'est que la cesse chrétienne n'est jamais le but en lui-même. On n'a pas un comportement ascétique pour le plaisir. La cesse n'est qu'un moyen, un style de vie, une méthode, finalement, pour transformer l'homme. Comme je vous le disais il y a quelques instants, d'ailleurs, la cesse chrétienne ne peut se comprendre que parce que l'homme est un être créé inachevé, qui doit encore se développer pour atteindre sa finalité, qui est de devenir semblable à Dieu. Et les pères de l'Église, saint Paul, saint Athanase, saint Irénée de Lyon, ils n'ont eu de cesse de nous répéter ce qu'est le devenir de l'homme. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Si l'on oublie ce but, mais nous pouvons franchement nous demander, mais quel est le sens de notre vie? Pourquoi est-ce que nous sommes nés? Et même, qu'est-ce que nous faisons ici dans cette chapelle aujourd'hui? Nous ne sommes pas Dieu par nature, bien que certains aujourd'hui dans le monde se prennent pour Dieu. Mais nous pouvons essayer de le devenir en travaillant, en nous entraînant à cela, en faisant l'expérience du Christ, en apprenant comment vivre comme le Christ, comment lui ressembler toujours plus. Alors apprendre, ce n'est pas emmagasiner une grande connaissance théorique, en dévorant tous les livres qui nous parlent du Christ, en devenant un exégète de renom, un théologien reconnu. Mais c'est d'abord par l'expérience, par la pratique d'une vie conforme, peut-on dire, à celle du Christ. Le papillon, pour devenir ce qu'il est invité à devenir, doit quitter sa chrysalide. L'homme, pour devenir ce qu'il est invité à devenir, un Dieu capable de prendre part à la vie de Dieu, doit renoncer à des vieilles programmations, celles qui sont héritées des espèces animales antérieures et celles qui sont héritées aussi des sociétés humaines antérieures, de nos parents aussi. L'être humain est encore fort souvent et involontairement soumis à un instinct de conservation, à des réactions de survie. Il travaille ou il se bat pour sa nourriture. S'il est attaqué par réflexe, il se défend ou il fuit. Il a en lui, en somme, ces énergies brutes qui lui permettent de vivre selon une façon animale. Mais s'il veut accomplir ce pourquoi il est créé, il est donc invité à expérimenter une autre façon de vivre, à utiliser ses énergies brutes, mais d'une autre manière. Et la science chrétienne, finalement, n'est rien d'autre que cela. C'est une invitation à modifier notre façon primaire, notre façon animale de vivre, pour devenir semblable à Dieu. Et devenir semblable à Dieu, je ne vous apprends plus rien maintenant, c'est devenir capable d'aimer comme le Christ, jusqu'à donner sa vie pour ses ennemis. C'est pour ça que je vous disais que c'est un travail de toute une vie. Parce qu'aimer ses ennemis et donner sa vie pour eux, c'est quelque chose d'impossible pour l'homme sans l'aide de Dieu. On en est encore loin de cet état d'amour absolu, quel que soit notre âge. La cesse n'est donc pas un ensemble de devoirs, d'obligations, mais c'est de découvrir par l'expérience que l'on peut agir autrement, que l'on peut être au monde autrement que de la façon dont nous avons été programmés. La cesse, c'est un chemin d'expérience et de découverte. La cesse n'est pas morbide et triste, mais joyeuse et vivifiante, car elle nous conduit de découverte en découverte. Celui qui refuse l'ascèse, en somme, reste fixé au passé. Il oublie que l'humanité a un avenir, mais qui implique une transformation. Ce chemin de découverte ne peut pas se faire seul. Nous avons besoin d'un guide, de quelqu'un qui peut nous montrer comment faire, comment agir pour atteindre notre but. Et ce guide, je vais dire suprême, c'est Dieu. Avec ses deux bras, pour reprendre l'expression de saint Irénée, le Christ et l'Esprit Saint. Les paroles du Christ, ses enseignements, viennent parler à notre intelligence et à notre cœur. Mais la mise en pratique de ces enseignements, c'est l'Esprit Saint qui nous aide à le réaliser. En somme, nous avons besoin d'un interprète, d'un professeur pour nous conduire dans la juste interprétation et assimilation des paroles du Christ. Sans quoi, ce sera le vieil homme en nous, notre moi, qui les interprétera comme il voudra. Saint Grégoire de Nyssa disait que le but suprême de l'ascèse, c'est de viser non point à accabler le corps, mais à faciliter les fonctions de l'âme. Alors, quelles sont ces fonctions que nous avons dans l'âme? L'homme a ainsi reçu de Dieu plusieurs fonctions, plusieurs facultés dans son âme, et ces facultés vont lui permettre justement d'accomplir son chemin de déification. Alors, il y en a, je vais dire, 6 plus 1. La première, c'est l'intelligence. L'intelligence est là pour connaître Dieu et le découvrir dans ses manifestations, dans sa création. À l'inverse, l'intelligence, lorsqu'elle est pervertie, devient l'ignorance qui nous éloigne de lui. La deuxième faculté que Dieu a déposée dans l'âme de l'homme, c'est le désir. Le désir qui est là pour nous donner l'envie de jouir de l'intimité avec Dieu, d'expérimenter les choses divines, d'avoir faim de Dieu. À nouveau, cette faculté pervertie, si cette puissance du désir devient une course à des besoins immédiats et relatifs qui ne sont jamais assouvis. Donc ça, c'est lorsque le désir est perverti. La troisième faculté, c'est, peut-on dire, l'agressivité ou l'ardeur ou l'énergie. Cette faculté sert à l'homme à garder la bonne direction, à garder le cap, à repousser les attaques du démon qui tente de l'éloigner de sa cible, à lutter pour atteindre le royaume des cieux, à accomplir les efforts nécessaires pour avancer sur le chemin. Pervertie, cette faculté d'énergie, d'ardeur, ça devient la colère, que nous retournons alors sur les autres et sur nous-mêmes, et que nous exerçons pour assouvir nos besoins de domination et de puissance. La quatrième faculté, c'est la liberté. Et cette faculté, c'est un attribut de la nature divine. L'homme, créé à l'image de Dieu, a reçu cette faculté pour lui permettre d'adhérer et de participer à la réalisation de sa déification. Et aussi paradoxal que ça paraisse, c'est dans la tentation que la liberté se révèle. Et souvenez-vous, dans l'évangile de la semaine dernière, donc l'évangile de la tentation au désert, le Christ nous montre combien il agit en homme libre. La liberté pervertie devient alors l'esclavage des passions. La liberté pervertie objective l'homme, en fait le jouet, l'objet du démon. La cinquième faculté, c'est la mémoire. Elle était donnée à l'homme pour qu'il puisse constamment se souvenir de Dieu, de son Créateur, et ainsi garder devant lui le but de sa vie. Garder en mémoire que Dieu est amour, miséricorde, et que je peux devenir aussi semblable à lui. La prière perpétuelle est un puissant outil pour fortifier notre mémoire. Mais notre mémoire pervertie devient alors l'oubli de Dieu, l'amnésie, et se perd alors dans les mémoires du monde. Enfin, la sixième faculté, c'est l'imagination. Elle est là pour permettre à l'homme de garder en lui justement l'image de Dieu, d'avoir sous forme d'image une représentation aussi de ce qu'il perçoit, de sentir la présence divine à ses côtés, même de rêver Dieu. Pervertie, l'imagination devient le moteur de nos passions, car ils se nourrissent justement de notre imagination. Associé à l'oubli de Dieu, l'homme va remplir son âme alors avec des fantasmes, des cauchemars, des scénarios de plaisir éphémères sans dû. Et enfin, la septième faculté, et on peut dire que ce n'est pas tout à fait une faculté de l'âme, mais je veux dire qu'elle sert à l'âme, ce sont les sens et le corps. Ils sont là comme les outils de la réalisation concrète de notre divinisation. Le corps, guidé par l'âme, elle-même ensemencée par l'esprit, va recevoir la grâce divine et être partie prenante de la divinisation de l'homme. Le corps et nos cinq sens sont là pour mettre l'homme en contact avec le cosmos et la création, et ainsi aussi informer l'âme. Celle-ci, à travers ses facultés, donc le désir, l'intelligence, la mémoire, l'imagination, l'énergie, la liberté, va former nos jugements et nous permettre de progresser, ou bien si c'est perverti, de nous enfoncer. Saint Jean Chrysostome écrit « Nos jugements ne se forment pas d'après la nature des choses qui nous frappent, mais d'après le sentiment de l'âme qui les voit par les yeux. Et nous pourrions ajouter, et ça c'est moi qui l'ajoute, qui les entend par l'oreille, qui les goûte par la bouche, qui les hume par le nez et les touche par la peau. Nos yeux sont là pour voir la création et y voir son créateur. Nos oreilles pour entendre à travers tous les sons du monde les paroles de Dieu. Notre nez pour sentir en tout la bonne odeur de Dieu. Et la bouche pour goûter dans la nourriture combien le Seigneur est bon et pour clamer ses louanges. Notre peau, c'est pour toucher à travers le matériel, le physique, la grandeur et la douceur de Dieu. Nous voyons ainsi que le corps n'est pas à accabler, à brimer, à dénaturer, à maltraiter comme les philosophes de l'Antiquité et certains pères de l'Église ont voulu le faire. On peut dire qu'en somme, il n'en peut rien, le pauvre. Mais que ce sont les pensées qui naissent dans notre âme qu'il va nous falloir essayer de réorienter et de ne pas les laisser s'égarer, se pervertir. En somme, saint Maxime disait, c'est le mauvais usage des pensées qui a pour conséquence le mauvais usage des choses. L'ascèse, c'est ainsi apprendre à garder une cohérence entre nos pensées et les pensées de Dieu, pour que finalement les pensées de Dieu deviennent nos pensées. Il y a 6 étapes dans le mécanisme, en somme, de la pensée. La première étape, c'est la suggestion. Il y a une montée dans la conscience de la perception. Tu as vu, tu as entendu, tu as goûté, tu as touché. La deuxième, c'est de commencer à dialoguer avec cette pensée. Je tends l'oreille, je commence à réfléchir et à dialoguer en moi-même. La troisième, c'est l'acceptation. Je consens à cette pensée, j'y adhère. La quatrième, et c'est là un peu qu'on bascule, c'est la captivité. Je deviens la pensée. J'entre dans l'émotionnel, la pensée a atteint mon cœur et elle m'obsède d'une certaine façon. La cinquième étape, c'est l'accomplissement. Je choisis de dire oui. Je passe à l'acte et je rentre dans l'étape passionnelle. Et la sixième, eh bien, c'est la passion. Et ça devient mon mode de vie habituel. Et à partir de ce moment, et je vous disais, ça dépend toujours comment on va le regarder, c'est soit dans un état passionnel, on est entré à ce moment-là dans un état passionnel, soit dans un état vertueux, en fonction de celui que nous avons écouté, ou que nous allons suivre. C'est soit Dieu, ou soit, ce qu'on peut dire, Mammon, par exemple, ou le diable. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Cette parole du Christ est importante pour progresser dans la transformation de l'homme. Si nous voulons nous transformer et réaliser ce pour quoi nous sommes faits, nous ne pouvons pas continuer à suivre le vieil homme en nous. Nous sommes invités à suivre le Christ et à devenir nous aussi des êtres d'amour. Alors pour cela, il y a un canevas à suivre pour essayer de nous rééduquer. Terme russe. D'abord, il faut, je pense, d'abord prendre conscience. Prendre conscience que je suis sur une mauvaise pente, que je m'éloigne du destin divin auquel je suis appelé. Ensuite, c'est vouloir changer. Et je ne fais pas ça par devoir ou par obligation, mais parce que je veux, parce que je le veux, et parce que les sauveurs, ceux qui peuvent m'aider, ce sont le Christ et l'Esprit Saint, et que librement, je veux les choisir. C'est une adhésion libre, finalement, en conscience que je fais. Ensuite, c'est aussi de faire un travail d'anamnèse, de voir pourquoi et comment je suis arrivé dans cet état d'éloignement de Dieu. Qu'est-ce qui, finalement, me pèse dans ma vie, ce à quoi je suis attaché et qui m'éloigne de Dieu. Puis, après ce travail, il faut commencer à poser les pardons. Pardon à Dieu, pardon aux autres et pardon à moi-même. Ensuite, il faut renforcer la ferveur pour Dieu par des fréquentations régulières, soit des liturgies, soit de la pratique des sacrements, afin de recevoir les aides spirituelles pour me réorienter vers le but de ma vie. Il faut aussi faire preuve de vigilance. Vigilance dans mes fréquentations, vigilance dans mon environnement, dans mes lectures, dans mes regards. Et puis, cultiver les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit qui sont la joie, qui sont la paix, l'amour. Essayez au quotidien peut-être de conserver la joie de la résurrection, la paix du cœur et l'amour pour l'humanité. Et ne pas hésiter, bien sûr, d'appeler Dieu à son secours lorsque l'on sent qu'on vacille. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. La joie est un des signes de la présence de Dieu, une joie calme, paisible, amoureuse. Alors pour cultiver ces dons, nous avons plusieurs moyens. Le premier, c'est peut-être de pratiquer la prière. Pratiquer la prière régulièrement, dans toutes circonstances. Alors la prière, ça ne doit pas être quelque chose de long, ou bien quelque chose de formulé admirablement. Chacun finalement confie à Dieu les mots qui lui montent dans l'état où il se trouve à ce moment. Et ça peut être un mot, je vais dire, presque d'injure, ou un mot de remerciement, ou bien une interjection vis-à-vis de Dieu, ou une interrogation vis-à-vis de lui. La prière, finalement, est le moyen le plus radical de se connecter à l'Esprit de Dieu. La deuxième pratique, je vais dire, pour cultiver ces dons, c'est entrer dans la louange et bénir tout au long de la journée. Essayer de ne plus maudire lorsqu'une petite ou une grande contrariété survient. La troisième aussi, c'est s'alléger. S'alléger par des moments de jeûne, de méditation. Le jeûne, finalement, nous libère. Il nous offre la possibilité de ne plus être prisonniers de nos désirs pour la nourriture, pour le cinéma, je veux dire, pour le sexe, pour le shopping, où chacun a ses désirs. Le jeûne a une fonction thérapeutique aussi. Le jeûne n'est pas d'abord, et surtout, ce n'est pas pénitentiel. Il est une sagesse biologique, une sagesse psychologique et une sagesse spirituelle. Il ne s'agit pas uniquement du jeûne en ce qui concerne le manger, mais du jeûne aussi en ce qui concerne le parler, le lire, l'entendre. Et le silence est une des fonctions importantes du jeûne. L'autre, c'est la méditation. La méditation qui est là pour nous donner du temps, pour nous donner des pauses. Vous savez tous comme moi que nous sommes de plus en plus dispersés, exilés, hors de nous-mêmes, fascinés parfois par le matériel et la vie extérieure. Et aujourd'hui, nous avons l'impression que notre vie va toujours et veut aller de plus en plus vite, dans une cacophonie invraisemblable. La vitesse, le bruit, la pollution, la publicité, l'Internet, tout nous entraîne vers le toujours plus. Et nous sommes emportés par ce tourbillon. Et les moments de méditation sont finalement des havres de calme, de silence, propices à se retrouver et à se reconnecter à Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Troisième chose que l'on peut faire aussi, c'est de fréquenter les monastères. Fréquenter pour nous ressourcer. On dit que s'il n'y avait pas dans l'humanité la vie monastique, il semble que l'humanité se décomposerait. L'efficacité de la vie contemplative est démontrée et réalisée par le moine et la moniale, dans un monde qui tend à méconnaître de plus en plus ce qui est le plus efficace. Le moine est celui qui aspire l'humanité vers sa fin, mais c'est-à-dire vers sa réalisation, vers son achèvement. Alors toutes ces petites actions vont nous conduire à être finalement des témoins de la paix, de la joie et de l'amour de Dieu, et nous rapprocher toujours de plus en plus vers notre objectif. La cesse est donc un don de Dieu pour nous aider à être le libre artisan avec lui de la création, pour l'achever et nous conduire au but de celle-ci, nous faire participer à sa vie divine en devenant des êtres d'amour. N'oubliez pas que le royaume de Dieu est un royaume d'amour. Et saint Paul, dans son épître aux Éphésiens, nous donnait déjà la clé pour changer. Et je vais vous lire un peu ce passage. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà, je vais dire, un programme d'exercice à faire si nous avons le désir d'arriver à la déification.